Vite à ouvrir, on va lire trois versets dans l'Épître aux Galates. Je ne vais pas vous prêcher sur l'Épître aux Galates, mais juste prendre quelques versets qui nous aideront à discerner le message de ce matin. Et je vais parler de rétrogrades. Voilà ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 6. Galates 1, 6. C'est Paul qui écrit à cette église qu'il avait formée. Et il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. » Je m'étonne. Je vous ai tellement enseigné des bonnes choses, des vérités, et voilà, et vous vous détournez. Je m'étonne, ça m'étonne. Chapitre 3, verset 1. Il dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Dépourvus de sens. Après avoir vu Jésus-Christ donner sa vie sur la croix, vous vous êtes éloignés. Et pour terminer, chapitre 5, verset 7. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez si bien. Voilà, je vous l'ai dit, le titre de mon message, c'est le rétrograde. C'est quoi un rétrograde? C'est, j'ai pris la définition, hein, c'est quelqu'un qui va vers l'arrière, qui revient vers son point de départ. Hein? Rétrograder, ça veut dire qui marche vers l'arrière, qui recule. Et c'est exactement ces Galates, ils étaient en train de faire cela. Voilà pourquoi, dans l'Épître aux Galates, c'est la seule épître dans laquelle Paul il ne salue pas. Voilà. Je vous salue tous. Non, lui, il va, paf, parce qu'il savait ce qu'il devait leur dire. Il y avait des gens, il y avait des frères et sœurs qui ils s'étaient un peu retirés et ils écoutaient d'autres enseignements. Un rétrograde, c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans la vérité, qui connaît la vérité, mais qui petit à petit, il revient d'où il était venu. Un peu comme d'Apocalypse 2, 4. Tu bouges, il dit à l'église, tu bouges tant, tu fais de l'air, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et en rétrograde, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'éprouve plus le bonheur d'être parmi ses frères et sœurs, d'obéir au Seigneur. Et voilà, et j'ai pris comme histoire un personnage de l'Ancien Testament, c'est Balaam. Balaam, voilà, il fut à l'origine, il fut le porte-parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en arrière. Et ça, sa vie, il doit nous apprendre beaucoup de choses. Dans Jean, il nous a dit qu'il était parmi nous, mais n'était pas des nôtres. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Car une fois qu'on a connu, pourquoi revenir en arrière? Pierre, il a dit à tous ceux qui se sont éloignés, il a dit, ils sont retournés à leur vomi. C'est fort, hein? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si on a goûté quelque chose de bon, on ne le laisse pas. On continue à en manger. Voilà pourquoi il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, allez-y. Balaam, on va voir quelques caractéristiques de cet homme qui est en rétrograde. Attention, je ne dis pas qu'en rétrograde, il est perdu. Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Il doit revenir. Voilà pourquoi c'est très important. Et ces enseignements, ils sont pour chacun de nous, pour tous serviteurs de Dieu. Et nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Pas seulement moi, je suis pasteur, ou les conseils, ou les missionnaires et tout ça. On est tous des serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes là pour servir le Seigneur. Qui dans une place, qui dans une autre. Et ces enseignements, ils sont très important pour chacun, pour, encore une fois, pour moi premièrement. Peut-être que j'en ai plus besoin que vous. Et en préparant ce message, ça m'a fait du bien. J'ai regardé au plus profond de moi-même et je me suis dit, où tu es né, Aldo? Alors, qui était-il et quels étaient ses privilèges? Voilà. Qui était-il, ce Balaam, et quels étaient ses privilèges? Pour cela, allez dans le livre des Nombres. Chapitre 22, le verset 9 à 12. Dieu vint à Balaam et il dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» C'est-à-dire, c'était des hommes qui étaient venus comme lui, c'était un prophète. Ils allaient trouver Balaam pour lui dire, « Bon, écoute, il faut que tu maudisses le peuple d'Israël. » Parce qu'il avance, il avance, il est toujours conquérant. Nous savons que tu es un prophète, alors viens, et il faut que tu le maudisses. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Qui était-il? Ben c'était quelqu'un qui était en contact avec Dieu. C'était quelqu'un auquel Dieu il parlait. Et Dieu, il désire parler avec tous. Et Dieu, il nous a parlé en certains moments, n'est-ce pas? Un jour, il est venu et il m'a dit, attention, et j'ai dit, il est venu dans mon cœur, hein? Il n'est pas venu chez moi. Hein? Il est venu et il m'a parlé et il m'a dit, Aldo, tu es sur un mauvais chemin. Dieu, il m'a parlé et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écouté. Abraham, il était un idolâtre. Il adorait plusieurs dieux, plusieurs idoles. Mais ces idoles, ils étaient muets. Mais un jour, voilà qu'un dieu, il lui parle. Et alors, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il s'est confié en ce dieu qui lui a parlé, parce que c'est le seul qui s'est manifesté. Dieu désire se manifester à chacun de nous. Mais malheureusement, les gens, ils n'écoutent pas. Et pourtant, ce que Dieu désire, c'est leur bien. Voilà pourquoi il a parlé à Balaam, pour lui dire, attention à ce que tu fais. Je te parle, tu dois m'écouter. Et c'était un prophète. Et c'était un prophète. Hein? Verset 32, regardez. 38, pardon, toujours chapitre 22. Il dit, Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam, c'était quelqu'un qui rapportait les paroles de Dieu. Il rapportait les paroles de Dieu. Comme il a dit notre frère, hein, notre frère dans les études, pour ceux qui étaient là, nous sommes là pour apporter les paroles de Dieu, pour apporter l'évangile. Et Balaam, il a fait ça. Parce qu'il est monté pour maudire, mais Dieu lui a dit, tu diras que ce que moi je te dirai de dire. Et alors, au lieu de maudire, il a béni. Alors il est retourné chez Balak. Et Balak, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et Balaam lui dit, je te dirai les paroles des dieux. Il n'a pas dit, oh, j'ai pas pu. J'ai... Non, la parole des dieux. Lorsque Dieu parle, lorsque nous savons où Dieu parle, nous devons rapporter ses paroles, pas mes paroles. S'il y a une parole, une pensée qui sort de moi-même, laisse-la de côté. S'il y a une vérité, que je vous dis que c'est la vérité, avant de dire oui, tu as raison, regarde dans la parole. Et si Dieu, il dit que ce n'est pas la vérité, venez me voir, il me dit, Aldo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut aller voir les personnes pour qu'ils puissent voir qu'ils sont dans l'erreur. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est dans l'erreur? En regardant la parole. Car la parole est la vérité. Qui c'est qui dit la vérité? Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Voilà ce qu'il était, Balaam. Il entra en contact avec Dieu et il ne peut rapporter que les paroles. Je vous parle en tant que serviteur. Hein. Je ne prends pas le personnage de Balaam parce qu'il faudrait raconter toute l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui est rentré en contact de Dieu et il annonce les paroles que Dieu lui a dites. Un serviteur de Dieu, c'est ça. Dieu, il l'appelle, il lui parle, et lorsque on a répondu, nous devons rapporter les paroles de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Et il a reconnu que c'était Dieu. Il lui a dit à Balak, il a dit, voilà ce que je vais te dire, ce que Dieu a dit. C'est un témoignage. Lorsqu'on va parler aux gens, on leur dit, tu sais, mon ami, si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. On rapporte que les paroles de Dieu, pas mes paroles ou vos paroles. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien, nos paroles. Mais la parole de Dieu, ah oui, ça oui, ça oui. Chapitre 23, verset 9. Il est là pour... Il regarde le peuple d'Israël. Normalement, il doit le maudire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Parce qu'il était monté sur une montagne. Hein, et il a regardé où est-ce que le peuple d'Israël il était campé. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Il a dit, ce peuple-là, c'est un peuple béni. Et pourtant, ils étaient des pécheurs comme vous et moi. Mais aux yeux de Dieu, c'était un peuple béni. Il dit, je le vois, je ne peux pas le maudire, parce qu'il est béni. Et c'est exactement ce que nous devons dire à tous ceux qui nous entourent, tout autour de nous, en tant que serviteurs de Dieu. Que si on reste dans les camps du monde, nous voyons dans ces camps la malédiction, le danger. Vous savez, Dieu, du haut des cieux, il regarde la terre et il voit qu'un cimetière. Un cimetière, parce que tous ils sont des pécheurs, tous ils sont morts, sinon pas Dieu, ils sont morts. Mais ceux qui lui appartiennent, voilà, Israël, il était là, ils étaient des pécheurs, mais c'était le peuple de Dieu. Et alors il le regarde, il a dit, c'est un peuple béni. Et si vous regardez bien ce qu'il dit, et qui ne fait point partie des nations. Qui ne fait pas, et pourtant, il faisait partie des nations. Hein. Mais pour Dieu, non. Et à nous, Jésus-Christ, il nous a dit qu'il nous a choisis du monde. Il nous a retirés du monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Là, notre patrie, ce n'est pas ici. Notre patrie, c'est là-haut, dans le ciel. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Je vous le dis très souvent, il y a des gens qui ont été choqués, ils sont venus me le dire, mais comment tu dis ça? Mais je te dis ce que Dieu dit dans sa parole. Moi, je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a retiré du monde. Je n'appartiens plus à ce monde. Tant que je suis ici, oui, je suis là, vivant, mais je suis ici, mais je suis déjà là-haut. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais la foi, voilà. Éphésiens, il nous a dit que Dieu, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Vous êtes là, je suis ici, mais spirituellement, je suis assis à la droite de Dieu. C'est ça que nous devons voir en tant que serviteurs de Dieu. Et lui, Balaam, il voyait ces choses-là et il les a annoncées. Et c'est ce que nous devons annoncer aussi. Bien sûr, ces choses ne font pas plaisir à ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que Jésus nous a dit? Il a dit, ils m'ont haï et ils vous haïront. Vous me condamnez parce que je condamne vos œuvres. C'est ce que nous devons faire. Et pourquoi les gens, ils se moquent de nous, ils rient de nous, ils nous condamnent même? Parce que nous ne partageons pas leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de parler, d'agir. Ça ne vous est pas arrivé de vous dire, mais toi, tu es spécial, toi. Tu n'es pas, t'es peut-être pas comme nous, toi. Tu n'es pas comme nous. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Et nous désirons accomplir la volonté de Dieu. Tout serviteur de Dieu, il doit faire ça. Regarde, continue à lire dans le chapitre 23, 21 à 24. C'est toujours Balaam qui parle. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Le buffle. Excusez-moi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Il était convaincu de la sécurité d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit ça. Et nous aussi, nous devons être convaincus de notre sécurité. Israël, c'était un peuple d'esclaves. Ils venaient sortir d'Égypte. C'était des bergers. Et pourtant, il nous a dit, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Ils étaient des bergers. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes la même chose. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne nous disons jamais, oui, mais je pars perdant avec celui-là, il a fait les études. Ne nous déclarons jamais vaincus, car nous avons auprès de nous le vainqueur, Jésus-Christ. Nous ne sommes rien. Et pourtant, il nous a dit, tu es un lion, vas-y, tu es là pour ça. N'aie crainte de rien. C'est là notre assurance que nous devons avoir. C'est là l'assurance que nous devons avoir. Et verset 34, verset chapitre 24, verset 3 et 4. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Et il dit, quelles sont belles les tentes au Jacob, ta demeure au Israël. Ici, le serviteur de Dieu, c'est celui qui a l'œil ouvert. Qu'il voit les choses sans que les choses y sont là. Imaginez-vous, il dit, quelles sont belles tes tentes, au Israël, au Jacob. Sûrement, il voyait des tentes toutes pourries. Hein. Ils étaient des esclaves. Hein. Et pourtant, il est là, de la part de Dieu. Il a dit, quelles sont belles tes tentes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu il intervient dans notre vie, ce matin il en a parlé, il change nos vies. Tout devient rayonnant dans notre vie. Nous avons une nouvelle naissance. Et nous devenons, aux yeux de Dieu, des gens qui ont de la valeur. Pour Israël, Israël, qui touche Israël, il touche la prunelle des yeux de Dieu. Mais nous, c'est exactement pareil. Hein? Il avait l'œil de voir toutes ces choses-là et il avait aussi les oreilles pour écouter toute parole de Dieu. C'est ça les caractéristiques d'un homme de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu. Des gens, aujourd'hui, il te dit, oui, manifeste-toi, Dieu. Si tu existes, manifeste-toi. Et nous allons croire en toi. Les Juifs, ils disaient pareil. Quel miracle tu vas nous faire aujourd'hui? Mais Jésus, il dit exactement le contraire. Il a dit, je n'ai pas de miracle à te faire. Je te dis que si tu crois, tu verras. Il faut croire d'abord. Si on croit, on verra les miracles. On a prié tout à l'heure pour notre sœur Ingrid. Voilà, on croit que Dieu va intervenir. Et il va intervenir. Comment, on ne sait pas, mais il va intervenir. Et c'est le serviteur de Dieu, il doit voir toutes ces choses-là. Il voit. Il écoute ce que Dieu dit et il le répète. C'est ça un serviteur de Dieu. C'est ça un serviteur de Dieu. Le verset 13, chapitre 23, le verset 13. Si vous n'avez pas pris note, hein, n'essayez pas de revoir le message. Hein. Parce que j'ai pioché dans différents chapitres les caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Ensuite, on va voir le rétrograde, celui qui avait cette place inouïe, il s'est éloigné. C'est ça le rétrograde. Nombre 23, le verset 13. Verset 13. Balaak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il voulait pousser ce prophète à maudire, à accomplir les choses que lui il avait demandées. Mais les serviteurs de Dieu, trois fois il a fait ça. Et chaque fois il le mettait sur une colline plus haute. Il a dit, non, ici tu ne l'as pas bien vu. Hein. Mais chaque fois c'est Balaam, il a confirmé la fidélité de Dieu. Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il la tient. Même si nous sommes des pécheurs, même si nous trouvons dans des situations très difficiles, parce qu'il nous a dit, si nous sommes infidèles, hein, Dieu demeure fidèle. Dieu, il ne réinvente pas une situation. S'il nous a dit quelque chose, il va le faire. Il va prendre un autre chemin, une autre possibilité, mais il va intervenir sur ce qu'il a dit. Voilà pourquoi ses serviteurs, il doit proclamer la fidélité de Dieu. Mais nous savons que Balak, par la suite, nous a dit qu'il a aimé les salaires de l'iniquité. Et chaque fois, il lui donnait plus. Si vous lisez toute son histoire, hein, il a dit, tiens, je te donne 100 euros, maudis-moi ce peuple. Il monte, il dit, et il ne le maudit pas, parce que Dieu, il a dit non. Alors il a dit, tiens, je te donne 200, va un peu plus haut. Et lui, il prenait. Hein. Il essayait de maudire, non, il ne peut pas. Et Dieu, il avait averti. Hein. Il lui a dit, tu ne diras que les choses que moi je te dis. Et lui, il dit, oui, Seigneur, je le ferai. Balak lui offre beaucoup plus d'argent. Et il va, il se tourne vers le Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux y aller? Et pourtant, Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Mais vous savez, Dieu, des fois, il nous fait faire ce que nous désirons faire pour que nous puissions comprendre. Je t'ai conseillé, tu ne veux pas m'écouter, tu veux y aller, vas-y. Mais tu verras. Mais il y a toujours la grâce de Dieu qu'elle est là. Balak a scellé son âne et il s'est mis en route pour rejoindre, pour maudire le peuple. Vous connaissez l'histoire, hein? Il y a eu un ange qui s'est mis entre lui et le chemin. Hein? Et c'est l'âne qui lui a parlé. Voilà. Pour lui dire, arrête. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Ça, c'est encore la main de Dieu qui n'arrête pas de nous tendre la main. Il ne s'est même pas étonné qu'un âne puisse lui parler. Voilà. C'est ça notre volonté mauvaise, méchante, notre ancienne nature qui nous pousse toujours vers les choses. D'ailleurs, voilà pourquoi il dit, il a aimé les salaires de l'iniquité, cet homme-là. Hein? Regardez chapitre 24, verset 2. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Oui, il a fait des enchantements, et tout. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut tout lire hein, pour mieux saisir. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. C'était un homme qu'il était rempli d'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il avait pris possession de lui. Il était animé de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, malgré qu'il soit animé de l'Esprit de Dieu, cet homme-là, chaque fois, il essayait de maudire. Mais lorsque Dieu dit, tu ne maudiras pas, au lieu de maudire, il bénissait. On ne peut rien contre l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose va se réaliser. C'est ça que nous devons comprendre. Et Balaam, on a vu toutes les caractéristiques du serviteur de Dieu. Alors, quelle est sa faute? Quelle est la faillite de cet homme-là? On a vu toutes les caractéristiques, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait. Mais quelle est sa faillite, sa faute? Pour cela, regardez dans Josué, chapitre 24. Josué, 24, verset 9. Ça n'existe pas. Au Juges 24. Nombre, pardon. 24, 9. j'ai pas Josué 24, moi. Vas-y, lis-le. Voilà. Oui, excusez-moi, j'étais sur le livre des juges. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir dit que, que ce chapitre n'est pas dans le... Il n'y a que 21 chapitres dans Juges. Hein. Mais ici, voilà, voilà ce qu'il nous est dit au verset 9, hein, 24-9. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Et il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais... je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Quelle est sa faute ici? Il chercha à altérer la parole de Dieu. Il essaya de maudire au lieu de bénir. C'est un grand enseignement pour nous. N'essayons jamais d'altérer la parole de Dieu. Il y a cette malédiction dans le livre de l'Apocalypse, hein, tout à la fin, il dit « Maudit soit celui qui ajoute, qui retranche quelque chose de sa parole. » N'essayons jamais, même lorsque nous utilisons un verset, regardons toujours les contextes. Car si on ne regarde pas les contextes, hein, c'est un prétexte pour dire des choses qui ne sont pas là. Comme j'ai dit ce matin, pour ceux qui étaient là, hein, pour les, celui qui a porté là, j'ai dit, le contexte de ce message, on ne peut pas l'utiliser pour ce que tu es en train de dire. On peut en retirer un enseignement spirituel. Voilà. Ces ossements, c'est le monde. Voilà. Mais dans le verset qu'il a utilisé, ce n'est pas le monde, c'est Israël. Car Dieu ne se trompe pas. Rapportons toujours ce que Dieu dit dans sa parole. C'est très important. Parce que c'est là qu'on voit aussi la véracité de la Bible. Car lorsque nous parlons, nous faisons constamment référence à la Bible. C'est ça. Lorsque je me suis converti, Le pasteur qui est venu, il m'a donné un verset, il m'a dit, il voulait le répéter, il a dit, non, il faut le lire. Et c'est en lisant ce verset que j'ai compris ce que j'étais. Parce que ce n'est pas le pasteur qui me le disait, mais c'était Dieu. C'est là que je suis tombé. Je ne me suis pas évanoui. Hein. Je suis tombé et j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'est Dieu qui me parlait. Il me disait, Aldo, si tu continues sur ce chemin-là, tu vas être perdu. C'est Dieu qui parlait. Et c'est Balaam, il a cherché à altérer. Dieu, il a dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Lui, il est monté et il a dit, je veux le maudire. Mais Dieu, il a dit, tu ne le maudiras pas. Il a ouvert la bouche et qu'est-ce qu'il est sorti de sa bouche? La bénédiction. C'est ça, là. Une autre caractéristique de ces Balaam et aussi d'un rétrograde. En rétrograde aussi, il essaie d'altérer la parole de Dieu, de ne plus suivre ce que Dieu dit. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 15. 2:15. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité. au lieu de rester dans la voie de Dieu, d'avoir confiance en Dieu, il a quitté Dieu et il est rentré dans le monde. Il s'est occupé des choses du monde, il aimait l'argent. Et c'est ça, c'est la voie de l'iniquité. Tous ceux qui quittent le Seigneur pour le monde, c'est la voie d'iniquité. Et plus loin d'Apocalypse, il nous est dit, c'est la doctrine de Balaam. C'est ce qu'il arrive aujourd'hui. Il préfère le monde à Dieu, à ce que Dieu nous dit. Il s'est retiré pour vivre comme le monde. Mais un serviteur de Dieu, il n'est pas comme le monde. Ce n'est pas pour me vanter. Je ne suis pas comme les gens du monde qui n'ont pas Jésus dans son cœur, dans leur cœur. Je ne suis pas comme eux. Vous me direz, t'es un peu... Mais non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Des gens qui me disent, on est tous des enfants de Dieu. Non, c'est pas vrai. Dieu dit qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Un témoin de Jéhovah, il n'est pas mon frère. Un musulman, il n'est pas mon frère. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ en tant que Seigneur. C'est pas une critique. Je dis juste ce que Dieu il dit dans sa parole. Et pourtant, Dieu il a dit, aimez vos ennemis, bénissez. Mais il y a sur certaines choses, il ne faut pas qu'ils affirment d'autres choses. Parce que Dieu, il parle dans sa parole. Il aima le salaire de l'iniquité. L'amour qu'il est dans notre cœur, il détermine notre cheminement. Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Observe les commandements. Ah, mais je les ai observés. Ah, tu les as observés. Alors, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ah, là, tu touches quelque chose qui est plus fort que toi. C'est ça. Est-ce que le Seigneur, il veut que nous vendons tout? Pas du tout. Mais là, c'est pour lui montrer. Il lui a dit, ah, j'ai observé les commandements. Les premiers commandements, qu'est-ce que c'est? Tu aimeras de tout ton cœur. Et là, quitte tout ce que tu as. Ah. Là, tu me demandes un peu trop, Seigneur. Dieu, il nous ouvre les yeux des fois. Quel est l'amour de notre cœur? Car il détermine tout. Il détermine tout. Voilà encore dans 31, nombre 31, regardez, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Nombre 31. Le verset 16. 31, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors? Oui, c'est ça, je suis en train de lire, non? Est-ce qu'on a la même Bible? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Quelle est ici la situation? C'est que Dieu, il a dit que les femmes devaient épouser un Israélite, quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Balaam arrive et leur dit, non, mariez-vous avec n'importe qui. C'est ce qu'il dit. elles qui, sous la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. Désobéissance à la parole de Dieu. Ils entraînent les gens à faire, à ne pas faire les choses que Dieu a dit. Et le rétrograde, des fois, ce qu'ils en ont marre de l'Église, ce qu'ils en ont marre des frères et sœurs, ils disent, mais pourquoi tu restes ici? Viens avec moi là. Ils ne font pas les choses que nous, nous aimons. Ailleurs, on le fait. Viens, quitte. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit celui-là. Ils entraînent les gens en dehors de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait, Balaam. Dieu dit, ne vous mariez avec les gens qui n'appartiennent pas au peuple. Et Balaam dit, mais oui, vous pouvez. Mais oui, vous pouvez. Voilà ce qu'il a fait, cet homme-là. Et il nous a dit aussi, 24-25, hein, nombre 24-25, hein, 25. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balaam, il est retourné chez lui, après avoir vu toutes les bénédictions de Dieu. Après avoir parlé de la part de Dieu, au lieu de rester là où il y avait la bénédiction de Dieu, il est retourné chez lui. Donc, il est revenu en arrière. Et c'est exactement ce qu'il fait en rétrograde. Il est retourné où il n'avait aucune bénédiction de Dieu. Car pour usufruire des bénédictions de Dieu, il faut être là. Vous en souvenez, Élie, hein? Il était là où Dieu il avait dit d'être, et pas ailleurs. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il ne faut pas s'éloigner du lieu de la bénédiction. Je ne dis pas que la bénédiction, il est qu'ici. Dans notre église, hein, je n'ai pas dit ça. Hein. La bénédiction est là où il y a les enfants de Dieu, les rachetés de Jésus-Christ, et c'est là que Dieu manifeste sa grâce. Voilà pourquoi c'est très important. Il faut être là où il y a la bénédiction. Si on sait que dans un endroit on est béni, il faut rester là et pas se dire toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse plus. Je retourne en arrière. Rétrograde, c'est pas s'il y en a, hein. Mais prenons garde. Si nous voyons au plus profond de nous-mêmes que nous nous sommes éloignés du Seigneur, que nous l'avons laissé de côté, revenons, car c'est cela l'enseignement. Retournons vers le Seigneur. Et il nous redonnera la joie, comme on a vu ce matin, David, il a dit, redonne-moi la joie de ton salut. Parce qu'en rétrograde, il n'a plus la joie. Il n'a plus la joie. Parce qu'il est dans le monde. Donc il faut qu'il revienne vers le Seigneur, pour que le Seigneur puisse lui donner. L'amour du monde, c'est un péché qui va nous ronger de l'intérieur. Celui qui aime le monde plus que le Seigneur, il le dit lui-même, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Et quelqu'un qui ne fréquente plus une église, qui ne fréquente plus les études bibliques, qui ne fréquente plus les cultes, qui ne fréquente plus les frères et sœurs, qu'on ne téléphone plus, il ne veut rien savoir. Il est à l'extérieur. C'est ça. Et ça, c'est le Seigneur qui nous le dit. Et il nous a dit en Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je l'ai qui est assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je tiens mon corps durement. Pourquoi? Parce que les tentations, ils sont là. Et Paul dit, je traite durement mon corps. C'est quelqu'un qui prêchait aux autres. Voilà pourquoi il dit, je ne vais pas tomber. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur. Il faut que nous ayons peur de nous trouver dans cet état-là, sans la communion de Dieu. Un peu comme Jésus sur la croix, vous savez. Hein? C'est le seul moment où Dieu n'était pas en communion avec lui. Et Jésus, il l'a senti. Parce que jamais il lui arrivait ça. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, il avait tous les péchés du monde sur la croix. Et automatiquement, Dieu, il n'était pas avec lui parce que c'était la malédiction. Et il l'a ressenti. Est-ce que nous ressentons cela lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu? Est-ce que nous crions comme Jésus? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh. C'est ça. Et en rétrograde, c'est ça. Il est pas en communion avec Dieu, il est dans les péchés, mais voilà, il s'en fout. Voilà pourquoi le Seigneur, il n'arrête pas de nous dire, reviens, je t'aime. Un peu comme le fils prodigue, il avait peur. Il a dit, je vais rentrer chez moi, je vais voir mon père, je vais me prosterner devant lui. Mais lorsque le père, il l'a vu, il a été vers lui à sa rencontre. Et il lui a même pas donné la possibilité de parler, il l'a embrassé. Mais c'est ça que Dieu fait avec tous ceux qui se sont éloignés. Alors à chacun de nous, de regarder au plus profond de notre cœur et se dire, dans quel état est mon cœur? Que le Seigneur il nous aide vraiment, car bientôt le Seigneur il va venir, vous savez. Eh, oh Seigneur, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et Dieu nous dira, je ne te connais pas. Et c'est dur d'entendre ça, n'est-ce pas? Et pourtant, peut-être qu'il a fait des miracles et tout, qu'il a témoigné et tout ça, mais aucune communion avec le Seigneur, c'est ça là. Que le Seigneur nous aide à revenir. C'est cela que le Seigneur nous demande. Amen.